La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est l'écrivain Jamil Rahmani pour le livre « Les contes berbères de mon grand-père » chez Orient Éditions. Bonjour.
Bonjour.
Jamil Rahmani, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Je rappelle que vous avez publié des romans avec Michel Canesi, Alger sans Mozart, Villa Taylor, Ultime preuve d'amour. Vous avez publié aussi bien portant avec La médecine du prophète, un livre différent des romans, puisque vous y prodiguiez des conseils de santé. Et là, avec ce nouvel ouvrage, je découvre que vous aviez un grand-père anthropologue, Slimane Rahmani, qui a recueilli ses contes dans les années 50. Et c'est un livre qui traverse le temps et nous restitue par écrit une parole orale. On parlera tout à l'heure des très belles illustrations que l'on doit à la talentueuse Mélodie Aujabre. Mais d'abord, j'aimerais que l'on parle de votre grand-père. Qui était-il et que savez-vous de ce travail qui nous est présenté aujourd'hui et que vous avez réactualisé, vous avez toiletté le texte?
Bien, mon grand-père était un homme de grande culture et c'était l'expression parfaite de ce que devrait être l'Algérie, c'est-à-dire diverse. Il parlait toutes les langues du pays, à savoir l'arabe dialectal, qu'on appelle improprement dialectal, qui est une langue qui n'est pas un dialecte, mais une langue à part entière. Il parlait le berbère, enfin le kabyle de sa région. Il parlait le français, il parlait l'arabe, et il l'écrivait aussi, il l'enseignait, il parlait l'arabe dit littéraire. Et tout au long de sa vie, il a tenu à être le témoin et le récipiendaire de sa région, des us et coutumes de sa région. Il a fait des écrits sur les rites funéraires, par exemple, dans la région du Cap-Aucas, sur certains rites alimentaires, sur la pratique de la circoncision. Et il a recueilli ses contes dans les années 50. Il les a recueillis. Il devait être publié en 61-62. Mais bon, l'indépendance de l'Algérie est arrivée, il y a eu des bouleversements que vous imaginez, et donc ça ne s'est pas fait.
Et donc il y a une très belle préface du professeur au Collège de France Jacques Berck, qui est un monument pour qui s'intéresse au Maghreb, au monde arabe. Cette préface, il l'avait écrite pour le livre ?
Absolument, oui. Il est, pour une raison très simple, c'est qu'il connaissait depuis sa plus tendre enfance mon grand-père. Il est né en Algérie, hein, Jacques Berck, il est né à Frenda, son père était responsable de la commune mixte d'Aucas, où habitait mon grand-père. Et donc, mon grand-père a connu Jacques Berck et lui a enseigné le berbère, le kabyle et l'arabe. Et donc, l'intérêt pour l'arabe de Jacques Berck provient, j'imagine, des enseignements de mon grand-père.
C'est une très belle histoire que j'ignorais, Jamil Rahmani. Votre grand-père a voulu conserver et transmettre ses contes parce qu'il sentait que la modernité pouvait mettre fin à la tradition orale et finalement faire disparaître ses récits.
Oh oui, je pense qu'il avait la crainte de la disparition du patrimoine berbère. Donc tout au long de sa vie, je vous l'ai dit, il a recueilli toutes les pratiques de sa région et d'autres régions d'ailleurs, hein, pas seulement la sienne.
Alors, ces contes étaient évidemment racontés aux enfants par les femmes, les mères, les grands-mères, mais votre grand-père Slimane Rahmani rappelle dans son avant-propos que les hommes aussi se racontaient des contes et qu'ils écoutaient aussi des conteurs professionnels au Café Mort.
Bien sûr, c'est-à-dire que ça n'était pas l'apanage exclusif des femmes, mais les hommes pouvaient aussi raconter. Il y avait des conteurs qui allaient de village en village. C'était leur métier pour raconter ces contes immémoriaux, hein, qui remontent à très très longtemps et qui font partie du fond méditerranéen. D'ailleurs, je suis allé à Perpignan il y a quelques mois pour recevoir un prix littéraire et c'était la Sainte Jordie. Et la Sainte Jordi, c'est l'histoire d'un saint, Sainte Jordi, qui met fin au calvaire d'une petite ville qui était sous la coupe d'un dragon qui gardait la fontaine, et les villageois ne pouvaient se fournir à la fontaine que si régulièrement ils donnaient en otage des jeunes filles qui étaient dévorées par le dragon. Eh bien, et dans les contes kabyles, des contes berbères de mon grand-père, il y a cette histoire.
Et alors, comme tous les livres édités par Isabelle Sayah-Baudis chez Orient Éditions, ce recueil de contes est un enchantement à de nombreux égards. Il y a une préface de Jacques Berck, on l'a mentionné, des dessins absolument remarquables, une véritable explosion de couleurs que l'on doit à Mélodie Ojabre, qui est franco-iranienne. Alors, j'aimerais savoir quel travail vous avez effectué sur le texte. On peut dire quelque part que c'est un livre à deux voix, ou bien votre apport est plus modeste?
Je dirais que mon apport est modeste. Moi, j'ai réécrit les contes dans la langue des années 2020. La langue qu'avait utilisée mon grand-père était la langue des années 50, avec certaines lourdeurs, et donc j'ai peaufiné le texte. Mais le fond, enfin, l'essentiel, c'est de lui. C'est vraiment lui qui a recueilli les contes, qui les a transcrits, qui les a traduits du berbère, du kabyle en français, et moi je n'ai fait qu'alléger.
Alors ce sont des contes, ce sont des histoires, il y a des personnages savoureux, des figures imaginaires, peut-être un peu angoissantes parfois, comme les ogres, les goules, mais c'est aussi finalement un beau panorama de ce qu'était la Kabylie ancestrale, et ça nous parle aussi d'un monde qui a peut-être disparu avec la modernité.
C'est la dureté de la vie, mais jusque dans les années 60, moi j'ai connu la Kabylie avant l'indépendance algérienne, et je me souviens de villages misérables où les enfants étaient en haillons et marchaient pieds nus, ce qui n'est absolument plus le cas. L'indépendance algérienne a amené une redistribution des richesses et a permis l'enrichissement de toutes ces populations. Mais la vie en Kabylie, moi je me souviens, j'allais voir mes oncles, mes tantes dans le village où ont été recueillis ces contes, à Oras par exemple, ou même dans la banlieue de Béjaïa, dans la banlieue de Bougie, et les conditions de vie étaient très dures. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, on s'éclairait avec un quinquet, on appelait ça un quinquet, ou des bougies. Et les enfants avaient faim. Il n'y avait pas cette opulence que l'on trouve actuellement. Et c'est vraiment, ces contes sont le reflet de la dureté de la vie berbère.
Et on voit aussi le rythme des saisons. Et
oui,
puis, vous
oui.
avez parlé des rites, des différents rites funéraires, la circoncision. On voit aussi les rites agraires.
Bien sûr, c'était une civilisation, enfin une société agraire qui était liée, qui ne vivait que de la terre. Et c'est très drôle parce que il y a cet attachement à la terre. Mon grand-père avait quelques terrains, mais il y était extrêmement attaché. Et sur ces terrains, d'ailleurs, il pouvait y avoir des arbres. Quand vous aviez un terrain, vous n'êtes pas forcément propriétaire des arbres qui sont sur le terrain. Les arbres peuvent appartenir à un voisin.
Alors, on aurait envie de parler de chacun de ces contes qui est un condensé d'humanité. On va peut-être en citer quelques-uns. J'ai été très touché, par exemple, par l'histoire d'un bûcheron ou l'utilité de l'instruction, puisque votre grand-père était enseignant. Des enfants perdent successivement leur mère qui a été enlevée, puis leur père qui est pris dans un tourbillon. Les enfants se trouvent séparés par un cours d'eau et l'aîné donne pour conseil au plus jeune de rechercher l'instruction. Sans soutien et sans fortune, nous nous élèverons par l'étude. On peut dire tout de même que le conte finira bien.
Oui, tout à fait. Dans ma famille, c'était l'instruction qui était portée au pinacle, parce qu'on ne pouvait accéder à l'aisance que si on était instruit. Même pour les femmes.
Alors justement, j'allais vous en parler. Est-ce que vous pouvez nous parler des femmes présentes dans ces contes? Elles essaient souvent d'être actrices de leur destin.
Comme je le dis dans la préface, on sent le frémissement de la modernité, et c'est la force de ces femmes qui quêtent la liberté. Ces contes sont des contes, entre guillemets, patriarcaux, Et c'est-à-dire qu'il y a un certain regard sur les femmes qui n'est pas le regard contemporain. Hein. Si ces contes étaient écrits de nos jours, je n'aurais pas trouvé d'éditeur parce qu'il y a une certaine misogynie.
Voilà, c'est le reflet c'est d'une société à une époque donnée.
Patriarcale. Voilà, c'est d'une société à une époque donnée, mais la société, bien sûr, la société berbère, la société kabyle a beaucoup évolué. Les filles ont accédé à l'instruction. Mais même au sein de ma famille, il y a eu une évolution au sein d'une même fratrie. Ma tante aînée, la première fille de mon grand-père, un jour s'est permise de pousser un tout petit peu le rideau pour regarder ce qui se passait dans la rue. Et mon grand-père était dans la rue à ce moment-là et s'en est rendu compte. Il a pris 4 à 4 les escaliers et a surpris donc ma tante derrière le rideau et il l'a battue comme plâtre. Quelques décennies plus tard, sa plus jeune fille, il l'a mise au lycée, elle a accédé à l'instruction et un jour, elle s'est permise de lui dire, alors qu'il était en train de travailler dans ses manuscrits, de lui dire « je ne ferai plus le ramadan ». Je dis, mais comment se fait-il? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ben, je ne ferai plus le ramadan parce que j'ai eu un cours de philosophie et que la religion, ce n'est pas la raison et que moi, je suis une adepte de la raison. C'est pour vous dire le chemin parcouru en quelques décennies. Elles avaient 20 ans d'écart, hein, les deux femmes.
Et alors, ce manuscrit, vous le connaissiez depuis
toujours? Oui, bien
sûr.
Je l'ai connu, oui, parce que je l'avais lu quand j'avais 16 ans. Une de mes tantes qui l'avait reçu en héritage me l'avait donné, puisque mon grand-père est mort quand j'avais 13 ans, et donc je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Je savais qu'il existait. Et quand je suis devenu écrivain, je n'ai cessé de demander à ma tante de me le donner pour qu'on puisse l'éditer, hein, en hommage à mon grand-père. Elle n'a jamais voulu. Et donc j'ai dû attendre sa mort pour récupérer le manuscrit et le publier. Le temps a paru très long, oui. J'en ai beaucoup voulu à ma tante parce que je trouvais que c'était une injustice faite à mon grand-père. Mon grand-père avait mis, entre guillemets, toutes ses tripes dans ce texte. Je sais qu'il y tenait beaucoup et c'était la moindre des choses que de pouvoir l'exhumer et le donner au monde.
Jamil Rahmani, quand on parle des contes occidentaux, ceux de Charles Perrault ou d'Andersen, on est en contact avec la peur. Dans les contes berbères, il y a des ogres. Hein. Chez Charles Perrault et Andersen, on a Barbe Bleue, par exemple. Là, il y a des ogresses, des goules. Ces personnages-là, quel rôle avaient-ils dans la transmission de ces histoires?
Le rôle qu'ils avaient, c'était de mettre en garde les enfants sur la dureté du monde et sur la duplicité des êtres. Vous voyez un moment, dans un conte, il y a une ogresse qui prend une voix toute douce, qui demande à un enfant qui est perché sur un figuier de lui donner des figues. Elle le séduit, donc l'enfant lui donne une figue, puis elle l'attrape, elle le met dans un sac. Pour le manger, pour le ramener chez elle et le manger. Eh bien, c'est cet enseignement vis-à-vis des enfants de prendre garde à la dureté du monde.
Alors, quand on vous entend parler de ce conte, on pense tout de suite à La Fontaine avec Maître Corbeau, oui, sur son arbre perché. Et ce qui est formidable avec tous ces contes, c'est qu'ils sont universels et valables pour toutes les époques. Jamil Rahmani, chez Orient Éditions, André Miquel avait fait dialoguer La Fontaine et des fables du monde arabe. Et ces contes berbères, parfois, ont des morales qui font penser à La Fontaine. Par exemple, le taleb et le fellah, ça m'a fait penser à la cigale et la fourmi.
Oui, tout à fait. C'est un fond commun. Les contes ont un fond commun. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai retrouvé un des contes de mon grand-père à Perpignan. Donc, il y a une culture commune, il y a une culture méditerranéenne.
Alors, il y a une culture commune et puis il y a des termes spécifiquement berbères. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est qu'il y a des traductions qui sont intéressantes. Par exemple, vous parlez du village, Tadart, et puis on apprend par exemple qu'un Boussaadi, c'est un poignard fabriqué à Boussaada.
Oui, ça révèle tout un tas de choses de ce qui se passait dans ces régions au XIXe siècle et puis avant la colonisation française, pendant et puis jusqu'aux années 50. Et malheureusement, tout ça est en train de disparaître, emporté par le vent de la modernité.
Et c'est donc pour cela qu'il faut faire lire ces contes berbères
absolument,
aux
oui,
nouvelles générations.
Oui, bien sûr.
tout le monde peut les lire, hein, pas seulement les enfants.
Bien sûr, tout le monde peut les lire, pas seulement les enfants. Et puis, il y a aussi du berbère, hein, dans ce texte. Il y a des proverbes, il y a des chansons, il y a même un conte qui est un petit conte où il y a le texte berbère originel. Et j'avais même deux contes entièrement en berbère, mais qu'il était difficile de faire paraître pour des raisons de coût, hein, parce que ça alourdissait le livre, mais que je vais faire paraître en Algérie, parce que c'est vraiment un trésor linguistique.
Vous avez l'impression que votre grand-père serait fier de ce travail, Jamil Rahmani?
Ben, j'espère, de l'endroit où il est, j'espère qu'il est fier de ce que nous avons fait. Isabelle Baudis, Mélodie Hodjabr. Il y a aussi Khaled Ben Mortar qui a corrigé le texte berbère, à qui il faut rendre hommage. Et c'est un travail d'équipe, en fait. Hein. Je ne suis pas seul à avoir rendu au monde ces contes. C'est une équipe.
Et cela nous permet donc de nous rappeler aussi de Slimane Rahmani.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il y a un centre culturel qui a pris son nom dans le village où il est né. Il y a tout un tas de gens qui veulent le sortir de l'oubli, qui veulent rendre à la vie ses écrits.
Et donc, il serait fier aussi peut-être d'avoir un petit-fils qui est devenu écrivain. C'est à lui aussi que vous devez ce goût de l'écriture ?
J'ai été élevé dans une famille où il y avait des livres. La première bibliothèque que j'ai vue, c'est celle de mon grand-père, mais qui était une énorme bibliothèque, hein, avec... des manuscrits arabes du Moyen-Âge, avec des romans français, des romans anglais. Enfin, vraiment une très grosse bibliothèque. Et mon père a hérité de son père cette manie d'acheter des livres. Et moi, je ne peux pas, par exemple, je suis tout le temps à l'affût de livres, et je ne peux pas jeter un livre. C'est une chose qui m'est impossible. Je ne peux pas donner, j'en offre, mais je ne peux pas donner un de mes livres et je ne peux pas jeter un de mes livres. C'est impossible.
Eh bien, c'est un livre qu'on conseille de garder précieusement dans sa bibliothèque, Les contes berbères de mon grand-père.
C'est un signé... hommage aussi à la Kabylie, c'est un hommage à la vieille culture berbère de l'Algérie et du Maghreb.
Eh bien, on offrira avec grand plaisir ce très beau livre, Les contes berbères de mon grand-père, signé Jamil Rahmani, et des contes recueillis par votre grand-père Slimane Rahmani, avec une préface de Jacques Berck et des dessins de Mélodie Hodjabr, et c'est publié chez Orient Éditions. Merci Jamil Rahmani d'avoir été l'invité de la
Merci
bibliothèque
beaucoup.
De Radio Orient.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.